Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel. Pour l'émission Requiem. Eh bien, rendons-nous maintenant dans les pays de la Loire, et nous voici en Mayenne, à Cossé-le-Vivien. Le peintre et sculpteur Robert Tatin a fait de sa maison un musée d'art naïf, où sont exposées ses œuvres, par exemple des crapauds gigantesques. Et dans le jardin, un cube lisse, en marbre noir, sert de tombeau à l'artiste, qui ne quittait jamais sa demeure, et qui a obtenu de ne pas aller au cimetière. À Laval, repose dans le jardin de la Périne le douanier Rousseau, qui avait d'abord été inhumé au cimetière de Bagneux, et ses cendres ont été transférées dans sa ville natale en 1947. Braque a signé le médaillon de son tombeau et Apollinaire, le texte qui commence par « Gentil Rousseau, tu nous entends ». À Saint-Julien-du-Théroux, le physicien et naturaliste René Ferchaud de Réaumur, fondateur de la métallographie et spécialiste des crustacés, avait été enterré dans l'église. Cette dernière a été démolie, donc une autre a été construite à sa place, si bien que l'emplacement exact des restes du physicien est perdu. Passons maintenant au département voisin de la Sarthe. Les trésors funéraires du département remontent au XIIe siècle. C'est à La Flèche que se trouve le cœur d'Henri IV. Il est déposé dans la chapelle Saint-Louis du Prytané National Militaire avec celui de son épouse Marie de Médicis. Au Mans, dans la cathédrale, se trouvent les mausolées du duc Charles IV d'Anjou et de Guillaume du Bellay, seigneur de Langeais, diplomate en Allemagne, en Angleterre, en Italie, mais aussi protecteur de Rabelais. Son tombeau est décoré de scènes marines. Dans cette même cathédrale se dresse le monument de Geoffroy V le Bel, Plantagenet, comte d'Anjou et du Maine, père du roi Henri II d'Angleterre. À Solesmes, dans le cimetière qui n'est pas loin de l'abbaye, on trouve la sépulture du poète Pierre Reverdy, qui avait choisi dès 1925 une vie de solitude et de prière. À Ypres, l'évêque fut inhumé dans l'abbaye cistercienne de Lépau, la reine Bérengère, princesse de Navarre, épouse du roi d'Angleterre Richard Ier, cœur de Lion. Eh bien, descendons maintenant dans le Maine-et-Loire. Dans cette belle abbaye de Fontevraud sont inhumés 4 membres de la famille Plantagenet. Le duc de Normandie, comte d'Anjou, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre, Henri II, 1133-1189. Son épouse, reine de France d'abord, puis d'Angleterre ensuite, Aliénor d'Aquitaine, qui lui donna 8 enfants. Elle avait pris parti d'ailleurs pour ses fils révoltés contre leur père. Et elle est morte après avoir marié sa petite fille qui s'appelait Blanche de Castille. Troisième sépulture, celle de leur fils Richard Ier, cœur de Lion, qui est mort jeune, 1157-1191, il est mort de maladie. Et enfin Isabelle d'Angoulême, que Jean Santerre, frère de Richard Cœur de Lion, avait enlevé pour l'épouser, et qui devint reine d'Angleterre. Ils sont tous les 4 côte à côte sous de gigantesques gisants polychromes. Au pain en mauge est inhumé dans l'église Jacques Catelineau, généralissime de l'armée catholique et royale. On l'avait surnommé d'ailleurs le Saint de l'Anjou. Au cimetière de Saint-Barthélemy d'Anjou est enterré l'écrivain catholique René Bazin. Il est académicien et grand-oncle d'Hervé Bazin. L'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil abrite le mausolée du marquis Charles de Bonchamp. À la tête des Vendéens révoltés, il fut tué à la bataille de Cholet, mais juste avant de mourir, il a gracié des milliers de personnes, évidemment des ennemis. Parmi les républicains, ainsi sauvés par lui, se trouvait le père du sculpteur David d'Angers. Et en remerciement, il n'a pas oublié le geste de Bonchamp et en reconnaissance, il a sculpté son tombeau. À Saint-Lambert-du-Lété, on trouve la sépulture très discrète du comédien Patrick Devers. À Saumur, le roi René a composé lui-même l'épitaphe de sa nourrice, Tiphaine, inhumée dans l'église Notre-Dame. Alors ça commence comme ça, « Je vous prie tous par bon amour, afin qu'elle ait un peu du vôtre, donnez-lui une patte nôtre. » Alors remontons un peu pour nous retrouver dans notre région, et plus particulièrement bien sûr en Eure-et-Loire. Diane de Poitiers est morte à Annette. Elle avait été inhumée dans la chapelle du domaine. Mais en 1795, les révolutionnaires ont profané son tombeau et les ossements ont abouti au cimetière communal. Depuis, il y a eu une société qui s'est fondée pour réintégrer Diane de Poitiers dans sa chapelle. C'est ce qui a été fait. Elle est maintenant donc dans la chapelle du château d'Annette. Au cimetière Saint-Chéron de Chartres, les occupants célèbres sont Raymond Isidore, surnommé Picassiette, gardien de cimetière, qui décora entièrement extérieur et intérieur de faïence sa maison. Et Gustave Lhôpitau, homme politique qui a été garde des Sceaux. En 1816, on a construit à Dreux la chapelle royale pour recevoir les sépultures des membres de la famille d'Orléans. Le peintre Ingres a réalisé les vitraux. Alors là, je ne vais pas vous énumérer tout le monde, parce que c'est incroyable le nombre de personnes qui s'y trouvent. Alors au milieu du déambulatoire se trouve le monument du roi Louis-Philippe Ier et de son épouse Marie-Amélie, tous deux morts en exil en Angleterre. Dans l'abside, nous rencontrons le duc Ferdinand d'Orléans, fils des précédents. Il est mort accidentellement d'ailleurs d'un accident de voiture à cheval. On trouve aussi la duchesse de Bourbon-Condé, mère du duc d'Enghien, vous savez, celui que Napoléon Ier a fait fusiller, et le duc d'Aumale qui a légué à l'Institut de France son château de Chantilly avec toutes ses collections. S'y trouve aussi le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, la duchesse d'Alençon, son épouse, qui a été victime de l'incendie du bazar de Charité, le prince de Joinville, fils de Louis-Philippe, c'est lui qui, en 1840, a ramené les cendres de Napoléon Ier. François d'Orléans, qui a été tué pendant la guerre d'Algérie en 1960, mort pour la France. Et puis, il y en a un autre de ses frères qui a été tué à Bangui, on n'a jamais su de quelle façon. À Loigny, toujours en Eure-et-Loire, à Loigny-la-Bataille, une chapelle regroupe les restes des généraux Athanase de Charette de la Contrie, un descendant de Charette, hein, et Gaston de Saunis, qui se distinguèrent lors de la bataille du 2 décembre 1870 contre les Prussiens. Dans la cour de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Retrou est érigée la chapelle funéraire du duc Maximilien de Sully, le plus célèbre des ministres de Henri IV. Au cimetière de Rueil-la-Gadelière, deux stèles arrondies signalent la présence du peintre Maurice Vlaminck et de sa femme Berthe. Le texte qui suit a été écrit par le peintre lui-même, et voilà ce qu'il a dit. « Je n'ai jamais rien demandé, la vie m'a tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai peint ce que j'ai vu. » À Yermenonville, nous rendrons hommage à l'aviatrice Hélène Boucher, morte à 26 ans de sa passion. Elle détenait plusieurs records du monde. Eh bien, descendons maintenant dans le Loiret, à Cléry-Saint-André. C'est un sanctuaire extrêmement célèbre, un sanctuaire marial, où reposent les ossements du roi Louis XI et de sa femme Charlotte de Savoie. Jean d'Orléans, comte de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, y repose aussi. Et dans le grand cimetière d'Orléans, on trouve un monument qui commémore la guerre de 1870. Tout près repose l'homme politique Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, dans le gouvernement du Front populaire. Il fut assassiné par la milice en 1944. Dans la cathédrale Sainte-Croix, la chapelle Sainte-Jeanne-d'Arc recèle le tombeau de l'homme d'église qui ouvra le plus pour la canonisation de Jeanne d'Arc, le cardinal Touchet. Dans la crypte de l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire se trouvent les reliques de Saint-Benoît de Nursy, qu'on appelait aussi le père de l'Europe et le patron de l'Occident, et de sa sœur jumelle, Sainte Scolastique. Le roi de France Philippe Ier, adversaire de Guillaume le Conquérant, repose dans le chœur. Son tombeau est encadré par quatre lions. Dans le cimetière, une pierre avec médaillon abrite les cendres du poète Max Jacob, le poète Max Jacob que la grâce de l'endroit avait touché et qui est mort d'une pneumonie au camp de Drancy après son arrestation en tant que juif. Dans l'abbatiale, une plaque mentionne « Ici priait Max Jacob, Magnificat ». Au revoir à tous.
Rimigate, rimigate, oggi voi perverse genti, allontanate.